RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, vous le savez, mercredi c'est le club de C'est pas du vent, un rendez-vous dans lequel nous faisons le tour de l'actualité environnementale qui nous a marqué avec les journalistes de RFI et d'autres médias. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les liens entre montée de l'extrême droite en France et dégradation de l'environnement. Nous verrons comment des projets pharaoniques pour apporter de l'eau là où il n'y en a plus se multiplient à travers le monde. Nous vous parlerons d'un énorme scandale de trafic d'huile de palme, de la vague de chaleur qui sévit actuellement au Pakistan, et nous vous donnerons toutes les infos sur le nouveau concours hip-hop qui vient de démarrer. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et aujourd'hui, autour de la table de ce studio 41 de RFI, je suis ravie d'accueillir Célia Quiret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste environnement à la Radio Nationale France Inter. Et pour les journalistes maison, nous avons Simon Rosé. Bonjour.
Bonjour.
Chef du service environnement de RFI. Et Igor Strauss. Bonjour.
Bonjour à tous.
De ce même service. Alors commençons par un petit tour de ce qui vous a surpris, étonné, amusé dans l'actualité environnementale de ces derniers jours. Célia Quiret.
Alors pas amusé, vraiment, mais il s'agit des résultats du premier tour des législatives ici en France. Et ce qui m'a étonnée, et en même temps je le comprends, mais c'est dur à assumer pour une journaliste environnement comme je suis, c'est que en fait c'est principalement dans les régions où le changement climatique est fort que le RN a réussi sa poussée, a réussi sa montée. Je m'explique, le Nord-Pas-de-Calais par exemple, vous avez vu ces inondations et ces personnes qui ont été obligées de partir de leur maison, qui vont être logées, la poussée du RN est pas récente, mais elle est encore plus forte que lors des précédents scrutins. La Camargue, 60...
Dans le sud de la France.
La Camargue, dans le sud de la France, par exemple, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui risque d'être submergée d'ici quelques dizaines d'années, le RN est à plus de 60%. Les Pyrénées-Orientales, on y reviendra ensuite dans l'émission, la sécheresse a été très forte, le RN est très fort. Et globalement, dans les villages aussi, dans les zones agricoles, où il y a des agriculteurs qui sont victimes du changement climatique, c'est là où le RN monte. Donc ça pose la question de l'écologie. Il parle, le RN, d'écologie punitive. Est-ce que cette écologie est vraiment trop punitive? Est-ce qu'elle n'a pas été comprise? Est-ce que peut-être que les partis au pouvoir ou même la gauche n'ont pas su suffisamment accompagner ces victimes du changement climatique? En tout cas, le RN ne leur apporte aujourd'hui dans leur programme aucune solution à ces victimes du changement climatique, puisqu'ils sont même dans une logique de climato-scepticisme, voire climato-dénialisme. Donc il y a un paradoxe, en fait. Ils choisissent le parti qui ne va leur apporter aucune solution.
Alors justement, Igor Strauss, pour RFI, vous êtes allé dans le Nord-Pas-de-Calais, donc dans le nord de la France.
Oui, tout à fait.
Et vous avez constaté
exactement la même chose. J'étais à Blandec, vous devez connaître également, c'est un peu l'épicentre des inondations qui ont eu lieu donc, entre novembre et décembre dernier. Et c'est exactement ce que vous avez dit. Je peux peut-être rappeler les chiffres. Aux dernières européennes, le Rassemblement National fait 50%, Reconquête 4%. Ce qui a eu réuni, c'est plus de la majorité. Et exactement, donc Blandec, moi j'ai rencontré des citoyens lambda, on va dire, de Blandec, victimes d'inondations à répétition. On sait que c'est dû au réchauffement climatique, à l'artificialisation des sols avec ces fabrications de grands supermarchés, de ronds-points, j'en passe, d'utilisation de pesticides avec de l'eau qui ne ruisselle et qui ne va plus dans les terres. Vous leur parlez d'écologie, vous font « oui, oui ». Mais nous, on va quand même voter Rassemblement National, qui est pour eux une solution. Il y a une conscience, moi je dirais, des enjeux environnementaux, mais la réponse n'est pas la bonne. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est très surprenant. Je partage entièrement votre étonnement, et c'est assez inquiétant finalement.
Oui, parce que c'est en 2018, en gros, au moment de la crise des Gilets jaunes, qui dénonçait la baisse du pouvoir d'achat de nombreux Français, que le RN a compris que les dispositions pour enrayer le changement climatique commençaient à impacter justement la vie quotidienne et donc à créer du mécontentement. Ils ont alors commencé à dénoncer l'écologie punitive dont parlait Igor, là, ses multiples conséquences sur l'économie, l'emploi, les modes de vie, notamment le transport et l'alimentation, et à développer leur concept d'écologie du bon sens, qui consiste à dénoncer tout ce qui menace finalement de perturber le mode de vie et de consommation des Français. Mais en gros, l'écologie du bon sens, c'est en résumé de rien faire du tout.
Ben, c'est en tout cas de ne pas s'adapter, puisqu'il n'y a rien dans leur programme qui permet justement de s'adapter à la montée du niveau de l'eau, ou à la sécheresse pour les agriculteurs, ou au changement climatique, ou même d'atténuer le changement climatique. Ils ne veulent pas non plus de voitures électriques, alors qu'on parle du Nord. Mais alors là, pour le coup, les voitures électriques et les batteries, c'est ce qui apporte de l'emploi, c'est ce qui apporte de la richesse. Donc c'est un contresens total. Certains climatologues parlent de, je ne sais plus, Valérie Masson-Delmotte en parlait comme d'une ineptie. Mais c'est vrai que dans le programme du RN, il n'y a rien pour aider ces populations à, ni à atténuer, ni à s'adapter au changement climatique. Donc le bon sens, c'est quoi? C'est de ne rien faire en fait. Donc c'est faire croire aux gens que finalement on peut faire l'autruche, mettre la tête sous l'eau et puis on sera victime de rien.
Et c'est vrai que ça interroge aussi notre rôle de journaliste environnemental.
Ah bah oui, moi ça m'interroge en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'en faisant des sujets sur les pesticides, en faisant des sujets sur la sécheresse, sur la montée du niveau de l'eau, je fais monter le RN, donc ça me pose vraiment une question.
Oui, Simon Roger.
On met aussi en opposition, avec des discours simplistes, on met en opposition l'homme et la nature. Je reviens sur la situation dans le Pas-de-Calais à Blindec. C'est curtage des rivières contre la protection des grenouilles. Mais au fait, on peut faire les deux. On peut protéger les grenouilles et empêcher une rivière de déborder. Rien n'est inconciliable, incompatible. Mais c'est ce discours, voilà, très. On simplifie à outrance les choses pour un discours. Que les gens aiment entendre. Pour eux, c'est peut-être plus simple de comprendre, mais c'est malsain parce que c'est faux.
Simon Rosé.
Mais Célia parlait du grand chantier de l'adaptation qui doit arriver. Il faut se souvenir que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, quand il s'était rendu sur zone au moment des inondations, à mot couvert, ce qu'il disait à ces personnes, c'est qu'à moyen terme, il faudra bouger. Et c'est tout le travail qui a été lancé sur le plan national d'adaptation au changement climatique, qui imagine une France à plus 4 degrés, à quoi ça ressemblera. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter à ça, et qui ne sera du coup a priori jamais publié avec toutes les affaires politiques que l'on connaît aujourd'hui. Comment on embarque les gens là-dedans en disant « votre vie, elle va changer du tout au tout ». Comment on fait? Et c'est vrai que ça soulève, ça peut provoquer un vertige qui fait que oui, la politique de l'autruche peut s'entendre aussi d'un certain côté, puisqu'on ne propose pas d'avenir. C'est toujours cette discussion sur comment on fait pour proposer un avenir désirable.
Alors justement, à propos d'avenir désirable, on va faire un petit peu d'émerveillement, Igor. Hein. Votre étonnement est un émerveillement cette semaine.
Fermez les yeux, Anne-Cécile. Imaginez un magnifique sous-bois dans une réserve naturelle du Mexique, dans le Michoacán. Attention, la lumière est rasante, traversante. Des troncs d'arbres, évidemment, des feuilles et des sortes de bourgeons qui n'en sont pas, mais qui donnent à l'image une dimension irréelle, un peu sacrée. Ce sont des papillons, Anne-Cécile, des papillons monarques qui sont endormis, écoutez bien, après un parcours migratoire de 4800 kilomètres depuis le nord des États-Unis ou du Canada vers le Mexique. Et ils sont réunis là tout simplement pour se reposer, reprendre des forces et s'accoupler. L'image est magnifique, elle nous rappelle la beauté et la fragilité de notre monde. C'est impensif, mais c'est un petit peu ça. Et puis, accessoirement, ces papillons sont en danger, victimes, évidemment. Il faut le rappeler.
On avait parlé d'émerveillement.
Voilà. Victimes de la déforestation et de l'usage massif des pesticides.
Je ne veux plus vous entendre.
Il y en a qui se battent pour les protéger. C'est la bonne nouvelle. Pour finir, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, cette photo a gagné le grand prix de la plus belle photo nature. Elle est vraiment sublime.
Et nous la mettrons sur la page de l'émission.
Une incitation à la rêverie.
Très bien. Merci, Igor, pour ce moment de poésie. Simon, une décision judiciaire qui a fait la une des médias américains.
Même une série de décisions. La semaine dernière et en début de semaine, la Cour suprême américaine rendait toute une série d'avis. On a beaucoup parlé de la question sur l'immunité de Donald Trump. Il y a eu toute une série de détricotages de mesures environnementales aux États-Unis par cette Cour suprême à majorité républicaine. Je pense tout d'abord au Good Neighbor Act, le plan bon voisin, comme on peut l'appeler, qui enjoignait les industries les plus émettrices, les plus polluantes à faire attention un peu à leurs voisins. C'était une directive de l'EPA, donc l'Agence américaine pour l'environnement. Ça a été sucré par la Cour suprême américaine qui a également signé la fin de ce qu'on appelle la doctrine Chevron aux États-Unis. C'est une doctrine qui datait de 1984, donc qui fêtait ses 40 ans cette année, et qui en gros disait que quand il y avait un peu un flou juridique sur une question environnementale, notamment, par exemple, maintenir des niveaux de pollution compatibles avec la bonne santé humaine, c'est pas très précis, c'est pas très défini, c'était les directives justement des agences fédérales fédéral qui devait s'appliquer. C'est comme ça que fonctionnaient les États-Unis depuis une quarantaine d'années. C'est cassé désormais et aujourd'hui, ce sera un juge d'un État concerné de dire quel est le niveau de pollution acceptable pour la bonne santé humaine, avec la différence près qu'avant, c'était l'agence fédérale qui le faisait, puisqu'ils ont des scientifiques, ils suivent la littérature scientifique, donc ils sont un peu plus informés. Et il y a une vraie crainte des défenseurs de l'environnement, mais même des libertés publiques aux États-Unis à la suite de la suspension de cette doctrine, et surtout un risque de boulimie judiciaire, on va dire, que de plus en plus de normes fédérales soient contestées au niveau des États aux États-Unis. Donc ça rentre dans une longue série de décisions prise par la Cour suprême, cette Cour suprême à majorité conservatrice aux États-Unis contre les mesures environnementales et climatiques.
Oui, puisqu'il y a un certain nombre de juges qui ont été nommés par Donald Trump il n'y a pas si longtemps, ce qui fait que voilà pourquoi on arrive à des décisions comme celle-là. Allez, rentrons maintenant un peu plus dans le cœur des sujets.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Célia Quiré, je rappelle que vous êtes journaliste environnement à la Radio Nationale France Inter et vous aviez envie de nous parler d'un reportage que vous avez réalisé dans le sud de la France, plus précisément dans les Pyrénées-Orientales, où les habitants subissent une sécheresse sévère depuis plusieurs années, comme en témoigne l'agriculteur David Massiotte que vous avez rencontré.
Là, on est dans un verger de nectarines qu'on va récolter au mois d'août. Pour l'instant, c'est bon. Après, on est inquiet. On espère avoir assez d'eau pour toute la saison. La vallée de la Glie, elle a pas de chance parce qu'elle récupère que des eaux de pluie. Le fait qu'il n'ait pas plu depuis 2-3 ans, il n'y a plus d'eau pour le monde agricole. Il va s'arracher entre 50 et 80 hectares de vergers. C'est un terroir un peu emblématique pour l'abricot, le rouge du Roussillon. De perdre ces secteurs, c'est malheureux.
À l'intérieur du hangar, les ouvriers trient les pêches, les abricots. Pour ce représentant de la FDSEA, ce projet d'acheminement de l'eau du Rhône est indispensable.
On l'attend comme le Messie. Ça permettrait vraiment de sécuriser ce département et ce serait un signal fort de l'État. Cette sécheresse, elle nous laisse finir de mourir.
Arrêtons-nous donc, Célia, sur ce projet d'acheminement de l'eau du Rhône. De quoi s'agit-il ?
Là, on parle vraiment d'adaptation au changement climatique, hein, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant. En fait, il s'agit de prendre de l'eau dans le Rhône, ce fleuve qui est assez abondant, pour l'amener jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Alors aujourd'hui, le tunnel existe déjà. L'eau est prise dans le Rhône, elle est traitée à Moguio, près de Montpellier. Et elle va jusque dans l'Aude et jusque dans l'Hérault. Et là, l'idée, c'est un projet qui est dans les cartons depuis assez longtemps, mais qui émane de la région Occitanie, à la demande des agriculteurs des Pyrénées-Orientales, de prolonger ce tuyau jusqu'au sud de la France, jusqu'à la frontière espagnole. Et effectivement, là, l'agriculteur qu'on entend, c'est un arboriculteur que j'ai rencontré, qui a des abricots, des nectarines. Il disait, on l'attend comme le Messie, ce projet. Mais c'est vrai que pour eux, ça permettrait de ne plus être dépendant des nappes qui sont à sec et qui étaient à sec en 2022, en 2023. Et finalement, ce serait une assurance vie pour eux. Ça leur permettrait d'envisager l'avenir avec plus de sérénité.
Mais alors, au niveau technique, est-ce que c'est faisable ?
Alors, pour la région Occitanie, oui. Pour l'entreprise publique qui gère l'eau en Occitanie, oui aussi, puisqu'il s'agit de prolonger un tuyau. Il y a le débit du Rhône suffit, donc ils imaginent que c'est possible. Mais là, ils en sont qu'au stade de l'étude. Il faut faire l'étude. On se projette à l'horizon 2030, donc quand il y aura encore moins d'eau dans les nappes. Mais c'est des travaux pharaoniques. En fait, ça consiste à prolonger ce tuyau le long de l'autoroute entre Montpellier et Perpignan. Donc, c'est des travaux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire combien ça va coûter, par exemple.
Mais le débit du Rhône va baisser à cause du changement climatique. Donc, est-ce qu'il y a assez d'eau dans ce fleuve pour permettre cela ?
Alors, aujourd'hui, ils prennent, je retrouve mes chiffres.
Hein. On entend le papier, oui.
Je le disais dans mon sujet, mais c'est des chiffres que je n'ai pas en tête. Aujourd'hui, ils prélèvent 150 millions de mètres cubes chaque année dans le Rhône. Et c'est à mettre en comparaison avec les 54 milliards de mètres cubes d'eau du Rhône qui se déversent chaque année dans la Méditerranée. Donc, c'est un tout petit pourcentage. Et là, il ne s'agit pas d'élargir le diamètre du tuyau, il s'agit juste de le prolonger, donc d'en donner moins finalement pour l'Hérault et l'Aude et d'aller jusque dans les Pyrénées-Orientales. Donc en termes écologiques, ça ne paraît pas impossible. Le débit du Rhône, même s'il diminue avec le changement climatique, il en restera quand même ce pourcentage-là. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est vrai que c'est un argument qui est avancé par la région Occitanie et qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de désaliniser l'eau de mer pour irriguer les cultures. Mais finalement, plutôt que de laisser l'eau du Rhône partir dans la Méditerranée, mettre en place des usines de désalinisation pour irriguer, autant prendre l'eau du Rhône directement et l'acheminer
Oui, parce que la désalinisation, ça coûte très cher. Et en plus,
ça coûte très cher, c'est énergivore. Et ça peut aussi mettre en danger la biodiversité marine.
Simon Rosé.
Mais on revient à tout ce qu'on disait sur l'adaptation, justement, où c'est intéressant. Plutôt que de... Il y a toutes les réflexions sur comment adapter nos cultures à des conditions qui vont changer d'ici 10, 20, 30, 40 ans. Plutôt que de les adapter, on n'a plus d'eau, et ben on va aller chercher de l'eau ailleurs, qui est quand même une façon de prendre le problème qui a tendance à perpétuer les pratiques aujourd'hui qui ne seront pas adaptées. Igor, je sais que Igor Strauss, vous avez travaillé sur les sujets de l'agrogéographie, comment les cultures vont se déplacer vers le nord ou plus ou moins vers le nord avec le changement climatique. Et ce sont des choses qui sont encore très, 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 très peu intégrées aujourd'hui, de se dire, ben, on va peut-être devoir en fait tout simplement cultiver autre chose plutôt que des clémentines ou des nectarines là où il n'y a pas d'eau.
Et là, moi, je dirais peut-être qu'il faut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois prévoir des solutions techniques quand même, si on veut préserver un minimum d'activité économique dans cette région, et c'est la journaliste environnement qui parle, hein. Mais tout en se disant, il faut une nouvelle agriculture, et il faut aussi une agriculture qui respecte davantage l'environnement, et peut-être conditionner cet acheminement de l'eau à des pratiques agroécologiques, et pas forcément acheminer l'eau du Rhône, et donc vider l'eau du Rhône, hein, si on voulait caricaturer, pour de la viticulture des Pyrénées-Orientales, qui est uniquement à destination
fabriquer du vin pour l'exportation,
par exemple. Voilà. Et peut-être que cette eau, elle va coûter tellement cher qu'il va falloir mettre des conditions à ce projet. Ça va être l'étude, c'est un projet à 10 ans, donc on a le temps d'y réfléchir. Mais moi, je pense que dans tous les sujets écologiques, il faut voir à la fois les solutions et aussi un peu plus de sobriété, sinon on n'y arrive pas, en fait.
Mais c'est tout le problème, hein. Igor Strauss.
Non, mais c'est vrai pour ce que disait Simon. Donc moi, j'avais interviewé Serge Jacquat, donc qui est un agroclimatologue. Il est spécialiste du climat, mais il connaît justement toutes ces questions agricoles, qui nous expliquait que le climat bouge, mais même dans un pays comme la France. À savoir que, en France, typiquement, le climat méditerranéen remonte. Il n'y a plus de climat continental, m'expliquait-il, dans l'est de la France. Il est parti en Allemagne. Le climat de Bordeaux va vers Paris. Donc, en fait, toutes ces cultures-là, il va falloir les déplacer. L'arboriculture, c'est peut-être plus une bonne solution dans le sud-ouest. L'huile d'olive, c'est peut-être plus une bonne solution dans le sud de la France. Tout ça va continuer à monter, il va falloir s'adapter. Mais c'est très compliqué de s'imaginer dans ce futur-là, même pour quelqu'un qui a toujours cultivé son huile d'olive dans le sud, se dire ça va remonter fatalement. C'est compliqué, mais il faut l'envisager. Ça fait partie des solutions à prendre en compte pour le futur.
En tout cas, votre reportage, Célia, est à retrouver sur radiofrance.fr. Et dans un instant, nous vous emmènerons dans la capitale du Niger, où des habitants sont submergés par les remontées des eaux souterraines. Eux, ils ont trop d'eau à cet endroit-là. Mais d'abord, place au groupe IAM, Contrat de conscience. Un titre qui date de 1993, mais qui résonne parfaitement avec l'actualité française.
Les temps changent, mais pas les gens, lui leur esprit. Aucun changement n'est constaté entre hier et aujourd'hui. Parfois je me demande à quoi tout cela sert. Les meetings, les manifs qui finissent en mini-guerre. Puis je me dis que cela en vaut la peine quand des images me reviennent. Alors je me rappelle, je marchais tranquillement, les mains dans les poches. Arrive une femme au loin, un sac à droite, une sacoche à gauche. Par politesse, je m'écarte et la laisse passer. Je sens sa peur quand elle change son sac de côté. Ce genre de réaction accroît à mon aversion pour ces gens que je mets dans le même escadron que ces idiots critiquant leurs voisins maghrébins qui réservent leur place pour Agadir au mois de juin. Qui resteront sur les plages jusqu'au soir à faire le tour le dos. Cela dans l'espoir de prendre quelques couleurs sombres. Y'a plus de charme, mais t'en vas la cruche au soleil qu'à la fin elle crame. De retour en France, on vante son bronzage et on vote la flamme. Pendant les électorales, l'envoleur le s'élève, s'indigne et frappe du poing. On se crétine, espérait surtout pas une poignée de main. Car le flot de mes colères coule en abondance. Je devais le dire, j'avais un contrat de conscience. Je suis tenu par les liens de contrat de conscience. Je suis tenu par les liens de contrat de conscience. En Allemagne, comme dans les années 30, des nazis s'organisent et attaquent en bande. Avec le soutien de la population, donne libre cours à la violence et à l'exclusion. Personne ne dit rien, où sont mes mémoires? 2 millions d'hommes et femmes balafrés par l'histoire. Mais je te prie de croire, si c'était demain, j'en aurais tué mille et serais mort, l'arme au poing. Et ceux qui crient, patrie, sécurité, dénoncer les résistants et se chier de lutter comme a dit Shuriken en pensant à leurs émules. Tout dans les urnes, rien dans les burnes. Que ceux qui ont eu du courage reposent dans mon estime. Le reste, que mes mots les abîment. Je me devais de le faire pour éviter cela en France. J'ai écrit ces mots car j'ai un contrat de conscience.
j'allais prendre le TGV. Voiture 11, première, tous mes billets étaient poissonnés. J'arrive au wagon, j'y dépose mes bagages. Le contrôleur d'un RT me dévisage. Il m'interpelle et me demande mes titres de transport. J'esquisse un sourire et tranquillement je les lui sors en lui signalant que le train n'a pas encore démarré. Il me dit je sais, mais je préfère vérifier. Vérifier quoi? Qu'y a-t-il de si bizarre? Quelqu'un comme moi ne peut voyager en première classe. Peut-être c'est vrai, je n'ai pas le profil social. Toi tu en as un pour finir sur les rails. Vous voyez, je le disais, rien n'a changé, mais il est vrai qu'il n'est pas aisé de raisonner un enfoiré. Nous étions 20 dans ce wagon, mais je suis noir, pas de chance. Je devais le dire, j'avais un contrat de conscience.
Vous écoutez le club de C'est pas du vent qui donne la parole aux journalistes qui traitent des sujets environnementaux sur RFI et ailleurs. Et chaque semaine, nous mettons aussi en avant un vidéaste amateur du réseau Hip-Hop pour Petites Ondes Participatives, un réseau qui recueille des témoignages pour humaniser le débat. C'est une chronique de Caroline Filliette.
Aujourd'hui, direction Niamey au Niger, où nous partons à la rencontre de Mariam Baye. Dans cette vidéo, nous voyons son quartier de Sonussi, où elle vit depuis 13 ans, totalement submergé par la montée des eaux souterraines. Maisons inhabitables, déchets plastiques, scènes de chaos. Un reportage hip-hop signé Alidou Alassanado et intitulé « Quartier perdu de Sonussi », dont nous allons écouter un extrait.
Salam alaikum wa rahmatullah.
Bonjour, je m'appelle Mariam Baye. J'ai 52 ans et cela fait 13 ans que nous vivons dans ce quartier. Ça fait 4 ans que nous avons des problèmes en permanence. Et depuis, mon mari est malade. Nous avons détruit notre maison construite en matériaux solides pour construire ce hangar dans lequel nous vivons actuellement. Nous l'avons détruite parce que l'eau jaillissait du sol. C'est de l'eau salée et elle contient beaucoup de parasites. Moi, je peux me permettre d'affirmer que la maladie de mon époux est liée à cette remontée des eaux. Quand on était arrivé dans le quartier, il n'y avait personne. On pouvait cultiver ici. Auparavant, on en profitait vraiment beaucoup. En cas de coupure d'eau du robinet, les eaux polluées retournent dans les conduites de distribution parce que le réseau se trouve juste en dessous des nappes phréatiques. Et cela amène les moustiques qui causent le paludisme. Le niveau statique du puits était à 3 mètres à sa réalisation. Aujourd'hui, l'eau se retrouve presque à la surface. Vous voyez ? L'État, qui nous a vendu cet endroit, doit venir le racheter. Actuellement, nos maisons sont en vente. Nous implorons l'État de les racheter ou de trouver où nous recaser.
Bonjour Alidou Alassanado.
Oui, bonjour Madame Caroline.
Alors, vous êtes chercheur en hydrogéologie et vous vous intéressez aux différents types d'inondations qui touchent Niamey, la capitale du Niger. C'était une évidence pour vous de réaliser ce film hip-hop ?
Donc, ce n'était pas du tout une évidence, si je dois commencer par là. On était parti à chercher des nouvelles techniques donc, de vulgarisation de nos travaux de recherche, parce qu'on fait de la recherche pour le développement. Je suis allé à la recherche de qui interviewait, et c'est là que j'ai croisé madame que vous avez vue. Et puis, en réalité, ce n'était pas elle que je devrais interviewer, mais plutôt son mari. Mais compte tenu de son état, on était obligé de faire avec.
Dans ce film, les images de ce quartier submergé sont très difficiles à regarder. Hein. Comment expliquez-vous cette montée des eaux souterraines ? À quoi cela est-ce dû ?
Donc, à la base, déjà, il y a ce qu'on a appelé le changement climatique, hein, qui se traduit par une intensification de la pluviométrie. Ensuite, il y a le contexte géologique, déjà. Donc, Niamey se trouve en bordure d'un grand bassin sédimentaire qu'on appelait le bassin des îles Mandan. Et là, compte tenu de cet aspect, donc, les eaux n'arrivent plus à s'infiltrer. Du coup, elles affleurent en surface pour constituer des inondations. Il y a également un autre aspect beaucoup plus important. La ville de Niamey, elle était une ville qui était extrêmement boisée, donc, dès les années 1950. Elle a fait l'objet d'un déboisement important où cette végétation, elle a fortement décru, passant de 94% en 1954 à moins de 7% en 2021 pour une hausse donc du milieu urbanisé qui est passé, lui, de 3% à plus de 87%.
Et quelles pourraient être les solutions mises en place ?
dans le cadre de mes recherches, moi, j'avais donné jusqu'à trois pistes donc, de solutions. J'avais dit qu'il y a des solutions qui sont à court terme, hein, donc c'est de drainer cette nappe vers l'exutoire, donc vers le fleuve. Hein. Et il y a également des solutions qui peuvent être à moyen terme, la mise en place donc, des stations de pompage. Et enfin, il y a des solutions qui sont vraiment à très long terme. Donc ça, c'est d'utiliser des phréatophytes, hein, tels que les margousiers, donc, qui peuvent être des super pompeurs. Là, je suis actuellement en Roumanie dans le cadre donc, de mieux comprendre le fonctionnement ou le comportement et l'avenir des eaux souterraines dans le but de proposer encore donc, un autre type de solution ou bien de mieux recadrer ces solutions parce qu'il va falloir savoir quel canot utiliser, combien pomper, à quelle distance aussi.
Merci beaucoup Alidou pour toutes vos réponses.
Je vous en prie, Madame Caroline.
Merci, Madame Caroline, pour cette interview. Gaëlle Flaugère de RFI Planète Radio nous a rejoint. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors c'est vous qui, avec Max Ball, animez la communauté des hip-hoppers que nous entendons chaque semaine dans ce club de C'est pas du vent. Alors c'est l'occasion de rappeler que ces vidéos, tout le monde peut s'en servir.
Oui, exactement. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. D'abord, peut-être ne le savez-vous pas, mais ces témoignages auxquels Caroline Filliette prête d'ailleurs magnifiquement sa voix chaque mercredi désormais, font partie d'un ensemble qui sont tous regroupés sur la plateforme en ligne hiphop.network. Aujourd'hui, nous avons plus de 600 témoignages des changements climatiques et environnementaux sur la plateforme et tous ces témoignages des quatre coins de la Terre sont accessibles et utilisables librement et gratuitement, bien sûr. Ça, c'est très important pour nous de le rappeler. C'est très important car ces témoignages, ils sont pour nous comme un matériau brut. Ils peuvent être utilisés, ils peuvent être mis en voix, comme le fait Caroline, mais aussi être débattus dans tous les médias des hip-hoppers ou les médias, les grands médias nationaux et internationaux.
Même dans les écoles, j'imagine.
Même dans les écoles, exactement, ou dans des conférences. Ils peuvent être utilisés aussi dans n'importe quelle production dans le cadre d'un travail de montage. Bien sûr, ils peuvent être simplement regardés pour savoir comment telle ou telle problématique est prise en considération dans les autres endroits du monde.
Vous redonnez l'adresse du site ?
C'est hiphop.network.
Et alors, cette base de données est constituée par des hip-hoppeurs amateurs, hein, on l'a dit, des vidéastes amateurs, mais elle est aussi alimentée régulièrement par le concours hip-hop qui vient à nouveau d'être lancé, le concours 2024, c'est parti.
Exactement, c'est l'annonce du jour. Hein. Donc la plupart en fait, des vidéos que vous pouvez écouter maintenant chaque mercredi sur RFI viennent de ce concours-là. Et ce concours, il est ouvert jusqu'au 12 septembre. C'est un concours qui est ouvert à tous, hein, vidéastes débutants ou confirmés. Et nous avons plein tutoriel en ligne d'ailleurs sur la page du concours hip-hop pour apprendre à faire des vidéos en partant de zéro si on est débutant, mais aussi pour apprendre rapidement les spécificités propres du format hip-hop si on est un petit peu plus confirmé. Naturellement, on a dans le concours des prix et des bourses en jeu pour des profils différents. Je vous épargne tous les détails ici et je vous renvoie sur la page du concours concours.hiphop.network.
Et pour donner envie, qu'est-ce qu'on gagne ?
Alors, on va gagner notamment un des prix. Allez, je vous parle d'un des prix. C'est le Grand Prix Hip-Hop Plus cette année qui offre une bourse de réalisation. Donc, je vais vous raconter cette petite histoire de Lorino Gouriot, qui était le gagnant du Grand Prix 2022, qui a réalisé un court-métrage grâce à la bourse du concours. Eh bien, sachez que ce court-métrage, il fait désormais le tour des festivals mondiaux et il a été récompensé en Serbie, en Italie et chez Lorino à Madagascar. Donc là, je tenais quand même le féliciter à l'antenne.
Mais nous aussi, nous félicitons vivement Lorino, dont j'ai vu le film et qui, en effet, est très intéressant sur les Mikéa, ce peuple
exactement
dans le sud de Madagascar. Merci Gaëlle Flaugère.
Merci.
RFI. Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Igor Strauss pour le service environnement de RFI, vous avez enquêté sur un énorme scandale de trafic d'huile de palme. Alors pour résumer, le secteur aérien utilise de plus en plus d'huile de cuisson usagée pour faire du biodiesel ou du biokérosène. Mais une récente étude montre que certains pays exportateurs d'huile de cuisson usagée justement, la remplacent frauduleusement par de l'huile de palme pour la revendre en Europe ou l'huile de palme est interdite. Alors expliquez-nous cela.
Alors moi, j'ai pas enquêté. J'ai repris une enquête qui a été faite par une ONG qui s'appelle Transport et Environnement. Eh bien, tout simplement, pendant 10 ans, de 2008 à 2018, l'Union européenne a développé les biocarburants à base d'huile de palme ou de soja. Notamment, c'est très intéressant pour décarboner le secteur aérien. Je vous rappelle, vous le savez très bien, Anne-Cécile, que l'aviation civile est responsable de presque 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc voilà, il y a cette volonté de décarboner les combustibles, le carburant utilisé, le kérosène utilisé dans l'aviation. Mais à partir de 2018, eh bien, au nom de la transition énergétique, eh bien, la Commission européenne a interdit l'usage de ces huiles de palme, je vais y arriver parce que avec toutes ces huiles on confond, huile de palme qui aggrave évidemment la déforestation. Et du coup, elle est moins utilisée évidemment en Europe, et c'est là que les huiles de cuisson usagées, à savoir, vous savez, l'huile pour une friterie, pour votre friteuse, qui est collectée dans les écoles, dans les restaurants, devient hyper intéressante pour ce secteur, puisqu'elle a les mêmes propriétés. Sauf que l'Union européenne ne collecte pas assez d'huile usagée de cuisson, alors qu'elle en utilise beaucoup. On a les chiffres, l'Union européenne consomme 130 000 barils d'huile de cuisson usagée chaque jour, c'est 8 fois plus que ce qu'elle parvient à collecter. Elle a donc recours à l'importation. Il y a des pays comme la Chine et la Malaisie qui importent énormément de cette huile.
Qui exportent.
Merci de suivre. Qui exporte l'huile de cuisson usagée. Et donc l'ONG Transport et Environnement a analysé les données de marché de ces deux pays avec des résultats assez troublants. Il se trouve que la Malaisie, par exemple, exporte 3 fois plus d'huile qu'elle ne collecte. Donc déjà, première incohérence. Au niveau de la Chine, les chiffres de collecte et d'exportation sont semblables. Ce qui pose problème, c'est qu'en fait, les chiffres de la collecte devraient être supérieurs pour prendre en compte l'huile de cuisson usagée qui est utilisée en Chine dans le pays. Donc ça, c'était la petite alerte de Transport et Environnement qui s'est dit qu'il y avait sans doute une fraude, tout simplement.
Alors l'Europe peut-elle collecter davantage d'huile usagée pour répondre à cette demande croissante?
Elle pourrait, mais ce serait compliqué. Donc je vous dis que pour l'instant, l'Europe collectait cette huile, principalement dans les restaurants et les écoles. Il faudrait, en France par exemple, on pourrait faire x2 selon l'ONG Transport et Environnement, mais il faudrait collecter l'huile chez les particuliers, ce qui semble assez compliqué à faire. Voilà, ça a un coût, c'est pas très efficace, donc ça serait assez dur. Pour vous donner un chiffre qui est assez parlant, Anne-Cécile, vous savez que la compagnie aérienne Ryanair, par exemple, veut que 12,5% de ses vols se fasse avec des carburants durables d'ici à 2030. Mais pour atteindre ce chiffre, il faudrait que Ryanair, la seule compagnie Ryanair, utilise l'ensemble de l'huile de cuisson usagée collectée dans toute l'Europe.
Oui, et elle n'est pas seule, évidemment.
Et évidemment, il y a Air France qui annonce ses chiffres, elle, c'est 10%. Donc ça devient très compliqué, l'Europe importe 80% de ses huiles, et puis surtout, il n'y a pas de contrôle. En fait, il y a des dizaines d'organismes privés qui sont censés assurer la certification, et comme ils se font une concurrence, si vous voulez, pour être conciliant avec leurs clients, ils peuvent laisser passer certaines huiles, d'où la fraude massive qui est en cours actuellement.
Alors, quelle est la solution?
Alors, la solution pour Jérôme Boucher, qui est l'auteur de cette enquête chez l'ONG Transport et Environnement, il n'y en a pas énormément. Déjà, ça serait tout simplement d'interdire les exportations de ces huiles. On parle de transport durable, c'est absurde d'apporter...
Les importations, vous avez du mal entre exportation et importation.
Les exportations, là, je me plaçais du côté chinois. Mais si la Chine exporte de l'huile de cuisson usagée pour un transport durable, vous comprenez bien que c'est plus vraiment durable. Les kilomètres que cette huile aura parcouru vont faire que son bilan carbone ne sera plus le même. Donc, il y a ce petit problème. Non, la vraie solution, ça serait surtout développer d'autres alternatives, les carburants de synthèse à base d'hydrogène, par exemple, d'hydrogène vert avec du CO2 qui est pompé dans l'atmosphère. Voilà, développer d'autres alternatives.
Mais tout cela coûte très cher et n'est pas encore au point. Alors, revenons aux huiles de cuisson. Elles émettent du CO2, elles aussi.
Et oui, presque autant que le kérosène lorsqu'il brûle dans les moteurs d'un avion. Par contre, beaucoup moins au niveau du cycle de vie. Vous savez que le kérosène, donc le carburant en fait, il émet beaucoup au niveau de l'extraction du pétrole, au niveau du raffinage, alors que pour ces huiles de cuisson usagées, au niveau de la production, il y a moins d'émissions, mais ça reste émetteur évidemment.
Donc la question, c'est est-ce que l'on doit ou non continuer à prendre l'avion ?
Ça, chacun est libre de faire comme il veut. Je ne préfère pas me prononcer.
Et la réponse est que le trafic aérien devrait doubler d'ici 2035 et être multiplié par 3 d'ici 2050. Donc pas vraiment de sobriété en vue. Dans un instant, nous vous ferons découvrir les activités des clubs des auditeurs de RFI qui sensibilisent aux enjeux environnementaux dans les camps de réfugiés en Ouganda. Mais avant cela, une spéciale dédicace à une auditrice fidèle, Frédéric Monin. Ce titre est pour vous. Le Sénégalais Fada Freddy chante So Amazing dans C'est pas du vent, évidemment. Amazing, amazing for a world like this. Early in the morning, as I emerge with the rising sun, I can't help smiling, thinking of all the best things to come. I've got issues, just like any other one, but when I'm with you, all of my fears are gone. So Amazing du Sénégalais Fada Freddy, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres sur la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes. Et c'est maintenant l'heure de la chronique des clubs RFI.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
RFI a beaucoup de chance, nous avons 70 clubs d'auditeurs à travers le monde. Certains s'engagent spontanément dans des actions, notamment dans le domaine de l'environnement. Bonjour Sébastien Bonijol.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Vous êtes chargé de coordonner les projets des clubs RFI avec Audrey Yatouni, que nous entendons aussi de temps en temps dans ce club. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de clubs très actifs dans des camps de réfugiés en Ouganda, car l'Afrique est en proie à de nombreux conflits qui oblige des populations à se déplacer à l'intérieur d'un même pays ou d'un pays à un autre. Et l'Ouganda est devenue une terre d'accueil pour de nombreux réfugiés. Et vous nous emmenez donc dans les camps de réfugiés de Nakiwale et de Kiangwale, au sud-ouest du pays. Dans ces camps, les clubs RFI se mobilisent sur des thématiques sportives et environnementales pour favoriser le vivre ensemble.
Je suis Jean-Paul Nsibula, nous sommes à Nakiwale, dans le camp de réfugiés. Nous sommes un club de RFI. Nous disons merci pour la visite de M. Thomas qui est venu nous voir. Et par là, nous avons commencé par un match de filles qui sont dans cette société négligée. Et après ce match, il a fallu qu'on se retrouve pour, n'est-ce pas, recadrer ce qui est écologique. Ici, chez nous, la nature est très polluée. Il a fallu qu'on regarde comment faire quelque chose pour que la nature nous soit douce. Nous voudrions que les réfugiés connaissent aussi que la nature est là pour nous protéger. Ici, nous n'avons plus d'arbres, nous n'avons plus d'herbes. Et si le club RFI de Kampala est venu nous voir, c'est un soutien vraiment que nous saluons. Et que ceux-là qui nous attendent, qu'ils sachent que nous sommes dans un milieu où l'écologie n'a plus de sens.
Nous venons d'entendre Jean-Paul Ciboula, le vice-président des clubs RFI, Sébastien, qui est dans le camp de réfugiés de Naki Valley, où ils interviennent depuis 2014 en collaboration avec le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, que font-ils exactement ?
Là, Anne-Cécile, en fait, les membres des clubs se mobilisent. Donc, ils mènent des activités très variées, hein, comme l'installation de bibliothèques, de salles informatiques, des cours de français également. On parle aussi de santé avec des séances de sensibilisation sur le VIH ou la santé de la reproduction. Et puis, il y a des activités culturelles comme les chorales, les ciné-clubs et des activités sportives, bien évidemment.
Alors concrètement, qu'est-ce que ces activités sportives, notamment des tournois de foot, apportent à ces camps de réfugiés ?
Alors ici, on l'a tous compris, on est bien loin du star system. Hein. Les terrains de foot ne permettent pas de pratiquer du beau jeu. Les crampons, pour ceux qui en possèdent, ont parfois la semelle qui pend, d'autres sont pieds nus.
Et à propos de beau jeu, vous savez de quoi vous parlez.
Exactement.
Parce que vous aussi, vous avez tendance à taper dans le ballon. Mais pardon, revenons au club RFI en Ouganda.
Voilà, donc pour certains, donc, ils jouent pieds nus. Mais en tout cas, l'envie est réellement là. Alors bien évidemment, le ballon permet aux réfugiés d'égayer leur quotidien, de pratiquer une activité sportive. Mais il s'agit également de créer un moment de solidarité autour du football, car le foot est un facteur de rapprochement qui peut faire tomber des barrières, comme le rappelle d'ailleurs Jean-Paul Ciboula.
Vous savez, le sport, c'est la communauté. Le sport ne se fait pas en chambre. Le sport, c'est une grande sensibilisation afin d'unir toutes les cultures. Vous savez, ici, au camp de Naki Valley, nous sommes plus de 7 nationalités différentes. Et tous ces peuples, n'est-ce pas, pour qu'ils soient unis, ils doivent se rencontrer dans un lieu qui soit cadré. Le sport, c'est vraiment un cadre qui doit réunir les communautés. Vous savez, un sport, on n'a pas de tribus, on n'a pas de communautés. C'est un lieu, c'est un tout qui réunit tout le monde.
Alors Sébastien, les membres des clubs RFI se sont vite rendus compte qu'ils pouvaient aussi profiter de ces activités sportives pour faire passer des messages sur l'environnement.
Exactement. Donc on va écouter Thomas Mboussa, le président du club RFI de Kampala, qui s'est rendu pour nous sur place dans le camp des réfugiés et qui nous explique donc l'étape suivante.
Après cette rencontre sportive, nous allons passer à une étape suivante, celui de planter les arbres. Et après, nous allons certainement avoir aussi des activités de mobilisation dans des places publiques telles que des marchés, des places où il y a des activités culturelles, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font ici dans les camps de Naki Valley.
Alors dans ces séances de sensibilisation, il parle aussi de la gestion des déchets, l'importance du recyclage et la conservation de la biodiversité. Ils expliquent également comment les déchets plastiques polluent les sols et les eaux et encouragent les jeunes à adopter des comportements écologiques au quotidien.
Cette approche permet non seulement de parler de la santé physique et mentale, on l'a bien compris, mais aussi d'encourager des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement.
Oui, Anne-Cécile, les clubs RFI démontrent ainsi que chaque activité, même récréative, peut-être une opportunité pour sensibiliser sur des enjeux cruciaux. Donc les membres des clubs RFI ont compris que la protection de l'environnement est donc une problématique importante pour eux, même dans des situations de crise. Et donc, tout naturellement, ils ont intégré des initiatives environnementales dans leurs activités, comme la plantation d'arbres en lien avec les écoles des camps de réfugiés.
Et ces actions de reboisement visent à restaurer les écosystèmes locaux, à lutter contre la déforestation, à sensibiliser aussi les réfugiés sur l'importance de préserver la nature. Mais concrètement, comment ça se passe ?
En fait, ces campagnes de plantation d'arbres, elles commencent toujours par une phase de sensibilisation. En fait, les membres des clubs RFI informent la population des camps sur les bienfaits du reboisement. Ensuite, les membres du club collaborent avec les autorités locales pour sélectionner les sites de plantation et s'assurent qu'ils répondent bien évidemment aux besoins écologiques de la région. Donc là, équipés de pelles et de pioches, en fait, ils travaillent en équipe pour creuser des trous et planter les arbres pour la plupart des fruitiers comme des avocatiers ou des manguiers.
Alors en organisant ces opérations de reboisement, les clubs RFI ne se contentent pas d'améliorer l'environnement immédiat des réfugiés, ce qui est déjà formidable, mais ils encouragent aussi une vision à plus long terme.
Oui, les membres des clubs RFI, en lien donc avec les écoles, continuent de suivre l'entretien des arbres plantés, assurant donc leur croissance et leur intégration dans l'écosystème local. Et pour les clubs RFI, il est important de combiner l'action immédiate avec une éducation à long terme. Ils savent que la simple plantation d'arbres n'est pas suffisante et ils ont conscience qu'il faut du temps pour changer les mentalités et les comportements.
Merci Sébastien.
Merci Anne-Cécile.
le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Simon Rosé, je rappelle que vous êtes le chef du service environnement de RFI. Alors, vous vouliez revenir sur un sujet que votre service a suivi, cette vague de chaleur mortelle que subit actuellement le Pakistan, en particulier à Karachi.
Oui, qui illustre tristement l'expression littéralement mourir de chaud. Ça fait une dizaine de jours qu'il y a vraiment un dôme de chaleur s'est installé au-dessus de la ville portuaire du Pakistan. 44 degrés, mais avec un taux d'humidité dont on parlait à ce micro la semaine dernière, ce qu'on appelle le thermomètre mouillé. C'est-à-dire que notre corps humain n'arrive plus à évacuer la chaleur. Ça monte très vite fait en ressenti en 53, 54, 55. Et les morgues de Karachi débordent depuis la survenue de cette vague de chaleur. Stéphanie Schuller, qui fait partie du service environnement de RFI, a fait un sujet avec les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Avant, ils recevaient c'est un peu glauque, je m'en excuse, entre 40, 45 cadavres par jour. Là, ils sont entre 150, 160 depuis une dizaine de jours. On est plus de 1000 morts dans la ville depuis ce phénomène de vague de chaleur. Principalement, on le sait, les personnes les plus fragiles, soit les très jeunes enfants, soit les personnes âgées. Et comme toujours, et c'est là où on voit encore une nouvelle fois que le réchauffement climatique et ses conséquences est également un phénomène social, ce sont les quartiers pauvres de la ville qui sont les plus touchés pour une raison très simple, le manque d'accès à la climatisation. Contrairement aux quartiers riches, il n'y a pas d'échappatoire à cette chaleur mortelle. Et quand il y en a, quand ils sont équipés en climatisation,
il faut de l'énergie.
Il faut de l'énergie et on sait que la chaleur affecte les réseaux électriques. Et donc du coup, il y a des délestages 12 heures par jour. L'opérateur électrique de Karachi coupe 12 heures par jour l'électricité, mais pas sur toute la ville. Non, dans les quartiers pauvres. Donc on a ce double phénomène, cette double lame qui se rajoute et qui va être amenée à se répéter puisque le Pakistan, c'est la deuxième fois en un mois. Alors avant, c'était dans la région de Sindh, donc c'était plus à l'est du pays où, pareil, on avait des températures qui dépassaient les 50 degrés. Encore une fois, il faut s'imaginer de ce que c'est. Là, c'est à Karachi, pas très loin, à Delhi, on a eu cette vague de chaleur également qui a été mortelle. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça se compte en dizaines, voire centaines de morts. Et encore une fois, la question, comment on s'adapte à ça? Comment on survit dans ces conditions de chaleur étouffante, chaleur humide, qui vont se répéter à l'avenir?
Alors, vous le disiez, on en a déjà parlé, mais bon, les auditeurs ne sont pas forcément fidèles toutes les semaines, même si nous savons, et nous les saluons, que nous avons des auditeurs fidèles. Cette chaleur humide, c'est à partir du moment où il y a plus de 35 degrés et un taux d'humidité supérieur à 80%, c'est cela, le corps humain a du mal à se refroidir.
C'est tout bêtement la sueur de notre corps. En fait, la sueur, quand elle s'évapore de notre peau, elle emporte un peu de notre chaleur avec elle. Si c'est trop humide dehors et qu'il fait trop chaud, cette sueur reste collée à notre peau et on cuit à basse température. Et si ça dure trop longtemps, si on y est trop exposé, avec un risque mortel d'hyperthermie. Et c'est ce qu'on voit, les gens qui meurent de chaleur, c'est littéralement ça. Et avec des populations donc précaires pour la plupart, ou alors les travailleurs, les ouvriers qui sont dans la rue, qui sont exposés à ça sans forcément de répit, de pause, d'accès en eau, à la clim, on l'a dit, et c'est un phénomène qu'on voit partout, tout autour du monde. Ce sont toujours les populations les plus précaires qui payent le principal coût des conséquences du réchauffement climatique. On l'a vu en Asie du Sud-Est il y a 2-3 mois avec des températures à peu près du même niveau en Thaïlande, à Bangkok, où les conducteurs de tuk-tuk, il y a eu des morts. Également aux Philippines, pour rester dans la région, mais également aux États-Unis. Les travailleurs dans l'Ouest américain, c'est quelques centaines de morts par an, de chaleur. Donc c'est quelque chose, on parlait encore une fois d'adaptation, le rythme de travail sur les journées. Il y a tout un travail à faire pour prendre ça en compte.
Voilà, une actualité à suivre, une de plus, sur RFI.fr. Merci Célia Kiret d'être venue dans C'est pas du vent. Merci à Caroline Fillette pour la préparation de cette émission et à François Porcheron pour la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir à nos émissions sur les réseaux sociaux ou par mail c'estpasduvent@rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.